7h. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Une lettre aux Français comme un propos liminaire avant le grand débat national qui doit être lancé demain pour répondre à la crise des gilets jaunes. Emmanuel Macron écrit aux Français une trentaine de questions, détails et analyses dans un instant.
J-1 avant le vote crucial sur le Brexit au Parlement britannique dans une dernière tentative de négociation. Theresa May tente de convaincre des poids lourds à gauche.
Et lui va-t-il rester au pouvoir en Grèce? Le Premier ministre Alexis Tsipras perd son principal allié au sein de la coalition gouvernementale. En cause, le nouveau nom du voisin de la Grèce, la République de Macédoine du Nord. À la une encore, l'extradition de l'ancien activiste Cesare Battisti en route pour l'Italie.
Et puis dans une dizaine de minutes, Catherine, la question du jour, Alzheimer, que peuvent changer les dernières découvertes sur la maladie? On posera la question à Antoine Triller, il est directeur de recherche à l'INSERM.
Avant le lancement officiel donc demain du grand débat national, il doit se tenir jusqu'au 15 mars autour de quatre thèmes, fiscalité et dépenses publiques, organisation de l'État et des services publics, transition écologique, démocratie et citoyenneté. Dans une lettre aux Français, Emmanuel Macron pose une trentaine de questions sur les impôts tout d'abord. Bonjour Rosalie Lafarge.
Bonjour.
Question sur la fiscalité en premier lieu donc dans cette lettre d'Emmanuel Macron qui a été dévoilée hier soir, et c'est effectivement la fiscalité qui arrive en premier, car c'est une taxe verte qui avait enflammé au départ les gilets jaunes.
Oui, le président veut transformer les colères en solutions, ce sont ses mots. Et pour ça, Emmanuel Macron parle assez vite d'impôts et de taxes dans sa lettre. Comment rendre la fiscalité plus juste et plus efficace, interroge le chef de l'État. Quels impôts faut-il baisser en priorité? Comment finance-t-on la transition écologique? Voilà le genre de questions soumises au débat. Mais attention, tout n'est pas mis sur la table non plus. Une phrase suffit à balayer tout éventuel retour de l'ISF. Une autre rappelle qu'on ne peut pas baisser les impôts sans trouver de quoi faire la balance. Une autre encore insiste sur la nécessaire solidarité nationale pour financer la transition écologique.
Et puis Emmanuel Macron propose également aux Français de donner leur avis sur l'organisation de l'État et la manière de renforcer la démocratie.
Avec là aussi toute une série de questions suggérées. Sur l'organisation de l'État, le président nous propose de discuter de plusieurs points. Faut-il supprimer certains services publics? Y a-t-il trop d'échelons administratifs en France? Faut-il renforcer la décentralisation? Le débat est ouvert. Sur la démocratie, Emmanuel Macron veut aussi voir large et met plusieurs points sur la table, de la reconnaissance du vote blanc à la possibilité du vote obligatoire, en passant par la bonne dose de proportionnel aux législatives, ou encore, faut-il accroître le recours au référendum et qui doit en avoir l'initiative? Avec ça, le président ouvre manifestement la porte au référendum d'initiative citoyenne réclamé par les gilets jaunes. De tout cela, Emmanuel Macron nous invite à débattre ces prochaines semaines et il l'assure, il a la ferme intention d'en tirer toutes les conclusions.
Avec au centre de ce débat, les élus locaux, les maires qui sont appelés à ouvrir leurs portes. Merci Rosalie Lafarge. Sur cette trentaine de questions donc qu'Emmanuel Macron pose aux Français avant le lancement officiel demain du débat national, une grande concertation avec certaines limites, l'IVG, la peine de mort et le mariage pour tous qui ont été exclus du débat, ainsi que la réforme de l'ISF, un verrouillage que dénoncent plusieurs partis de l'opposition. Dans les rangs de la France insoumise, le député Éric Coquerel estime que le grand débat n'est qu'une entourloupe destinée à enterrer les gilets jaunes, d'où le boycott des cadres insoumis à cette concertation nationale. Le président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, rejette également ce débat, foutaise intégrale selon lui. Quant à Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement National et député du Nord, il rejette autant la lettre d'Emmanuel Macron aux Français que le grand débat.
Nous ne nous faisons surtout aucune illusion sur ce grand débat qui est un grand pipeau national. On l'a bien compris à travers cette lettre, qui n'a d'ailleurs pas les qualités littéraires que pouvait avoir celle de François Mitterrand en 88, ni même celle de Nicolas Sarkozy quelques années plus tard. Cette lettre, c'est un baratin hypocrite qui nous indique simplement que La République en marche et le président de la République en premier sont comme des poules devant un couteau et ne savent plus où emmener la France.
Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement National. Marine Le Pen, la présidente du parti, a lancé sa liste hier pour les européennes de mai prochain, l'occasion pour la présidente du RN de dénouer, je cite, la crise politique née de l'aveuglement, de l'intransigeance, du mépris de classe, de la spoliation fiscale et de la déconnexion humaine d'un président. Fin de citation. Eux aussi sont dans l'opposition, mais ils vont apporter leur soutien à la consultation nationale. Les Républicains disent vouloir sortir du chaos, même si la porte-parole du parti, Laurence Saillé, émet des doutes quant à la méthode du gouvernement. Quant à Olivier Faure, premier secrétaire du PS, il souhaite que les sociétés socialistes se fassent entendre. Emmanuel Macron, lui, se rendra dans l'heure demain pour lancer la consultation nationale qui se tiendra donc jusqu'au 15 mars. Le chef de l'État sera à Grand Bourterouls, une commune située à une trentaine de kilomètres au sud de Rouen. 3800 habitants, dont certains ne sont pas convaincus de la bonne volonté de l'exécutif dans ce grand débat national. Vous l'entendrez dans le reportage de la rédaction à 7h24. Arrêtons-nous à présent sur un procès qui s'ouvre aujourd'hui aux assises de Paris avec sur le banc des accusés deux policiers. Ils doivent répondre du viol d'une touriste canadienne dans les locaux historiques de la PJ au 36 quai des Orfèvres en 2014. Des faits que contestent les deux policiers poursuivis pour viol en réunion. Ils encourent une peine de 20 ans de réclusion, Florence Turme.
L'affaire avait provoqué un très vif émoi au 36 quai des Orfèvres et au sein de la BRI, la brigade de recherche et d'intervention à laquelle appartenaient les deux hommes, suspendus de leurs fonctions très vite après le début de l'enquête de l'IGPN, la police des polices. Tout commence dans un pub irlandais du quai Saint-Michel où les deux policiers ont leurs habitudes. Ils ne sont pas en service ce soir-là et y rencontrent une touriste canadienne à qui ils proposent de visiter les locaux du 36 de l'autre côté du pont. Elle les suit au milieu de la nuit, passablement éméchée et sous l'emprise de stupéfiants. Le gardien en poste les voit entrer tous les trois. Une heure plus tard, la jeune femme ressort des bureaux en pleurs. Elle affirme avoir été violée. Après avoir nié, l'un des policiers évoque une relation sexuelle consentie. Son collègue de simples attouchements, selon lui, également consentie. Deux versions qui vont être interprétées de manière radicalement opposée. Les juges d'instruction chargés du dossier concluent d'abord à un non-lieu en faveur des deux policiers, contrairement aux réquisitions du parquet, qui obtient finalement ce renvoi aux assises où les experts psychiatres eux-mêmes pourraient livrer des conclusions différentes. Comme souvent dans les affaires de viol, la crédibilité de la jeune femme risque aussi de se voir bousculée au cours des débats, mais les derniers magistrats à avoir examiné l'affaire ont souligné que ni son état d'ébriété ni son comportement au pub ne pouvaient avoir valeur de consentement.
7h07, vous écoutez France Culture, la suite des matins avec le journal de Catherine Dutu. Après avoir été expulsé par la Bolivie, Cesare Battisti est attendu ce midi à Rome.
Où l'ancien activiste d'extrême gauche doit être emprisonné. La fin d'une cavale de près de 40 ans, l'ancien activiste armé des années de plomb en Italie a été condamné par contumace il y a 25 ans à la perpétuité pour le meurtre de 4 personnes. On y revient dans le journal de 7h30. J-1 avant le vote crucial sur le Brexit au Parlement britannique. Les députés doivent dire demain s'ils valident ou non le plan d'accord négocié par Theresa May avec Bruxelles. Mais le scrutin se présente mal pour la première ministre. Elle n'a plus le soutien des unionistes nord-irlandais. Elle a perdu aussi la confiance d'une partie des conservateurs de son camp. Alors en désespoir de cause, Theresa May tente de convaincre la gauche de la soutenir et de multiplier les coups de fil aux députés travaillistes et même Antoine Gignot à des leaders syndicaux.
Je suis content d'avoir eu un appel de la première ministre. Il lui a tout de même fallu 3 ans pour réussir à décrocher son téléphone, ironise Tim Roach, le patron du puissant syndicat GMB qui représente plus de 600 000 adhérents, essentiellement dans l'industrie et les hôpitaux. Et sans surprise, il balaye d'un revers de la main l'offre de Theresa May. J'ai été très clair, dit-il, l'accord qui est sur la table n'est pas assez bon. Même si on nous promet des garanties sur les droits des travailleurs, ça reste insuffisant. Chez Unite, Len McCluskey est encore plus radical. Le pacte conclu avec l'Union européenne, dit-il, est un cafouillage désastreux. Difficile de toute façon d'imaginer que le syndicat appuie la politique du gouvernement. Avec 1 300 000 adhérents, Unite finance directement le parti travailliste et soutient massivement Jeremy Corbyn. Le chef de file de la gauche, lui, réclame toujours des élections législatives anticipées. Les seuls appuis que Theresa May peut donc trouver sont peu nombreux dans l'opposition. Elle peut espérer convaincre quelques députés comme John Mann, qui redoute de voir le pays plongé dans une gigantesque crise. Mais les voix d'une poignée de travaillistes apeurés ne suffiront pas à donner à la première ministre une majorité à l'Assemblée.
Antoine Gignot à Londres pour France Culture. La coalition gouvernementale éclate en Grèce à cause du nouveau nom de son voisin, la République de Macédoine du Nord. Un nom inacceptable pour le ministre de la Défense. Panos Kamenos a démissionné, retirant avec lui le soutien de son petit parti souverainiste ANEL, jusque-là crucial pour Alexis Tsipras. Le premier ministre grec a été acculé hier à demander la confiance du Parlement face à l'éclatement donc de sa coalition, juste avant un vote des députés grecs grecque, prochainement sur le nouveau nom de la Macédoine, correspondance d'Angélique Kourounis.
Démission, vote de confiance, instabilité, le changement du nom de la Macédoine provoque ici en Grèce une véritable onde de choc. Mais le Premier ministre Alexis Tsipras se veut confiant. L'accord de Prespes qui scelle le nouveau nom du pays voisin, ratifié envers et contre tous.
Permettez-moi de féliciter le président de la République de la Macédoine du Nord, Zoran Zaev, qui a su convaincre. Et permettez-moi de transmettre un message aux Grecs. Comme ils n'ont pas fait marche arrière, nous non plus, nous ne ferons pas marche arrière.
70% de la population est opposée à cet accord qu'elle considère comme une trahison. Le politologue Athanasios Dorkos, lui, se veut pragmatique.
Puisque la Grèce est située dans une région difficile, elle doit fermer ses fronts un à un. Elle ne peut se permettre d'avoir le différent macédonien ouvert en même temps que l'albanais, alors que le problème majeur est la Turquie. Si on parvient à clore les fronts au nord, elle pourra se consacrer à la Turquie, qui est de loin la plus imprévisible.
Alexis Tsipras va demander un vote de confiance mardi. Il devrait l'obtenir. Rien n'est moins sûr pour la ratification du traité prévu dans le mois. Toute l'opposition y est hostile, mais 7 députés libéraux ont assuré Alexis Tsipras sur cette question de leur soutien. Mais tout le monde ici redoute un faux bond du dernier moment qui provoquerait des législatives anticipées.
Les Tunisiens célèbrent aujourd'hui les 8 ans de la révolution qui a fait tomber Ben Ali, un vent de liberté qui a ensuite soufflé dans d'autres pays arabes, en Égypte, en Libye ou encore en Syrie, avec les résultats que l'on sait. La Tunisie est-elle le symbole d'une révolution réussie? Si la liberté d'expression est désormais acquise, l'horizon social et économique est encore bouché. Illustration dans le centre-ouest du pays, le reportage de Nathanaël Charbonnier, envoyé spécial de France Culture à Kasserine.
C'est dans la ville de Kasserine que s'est immolé par désespoir en décembre dernier un journaliste indépendant. Kasserine, à 250 km de Tunis, tout proche de la frontière algérienne. Kasserine, où il y aurait tant à dire. Les morts de la Révolution, ces montagnes où se cachent des intégristes. Mais surtout Kasserine, territoire longtemps oublié, où la pauvreté vient frapper la population et où se désespèrent les plus diplômés. C'est le cas de Sanori Bartoli, chômeur depuis des années, malgré ses études supérieures.
Je suis 30 ans, mon âge, 37 ans. Je n'ai aucun dinar à mon poche. Qu'est-ce que j'ai fait dans cette vie? Je suis comme l'expérience. C'est Zouga, le journaliste, qui a fait ce suicide. On va exploser ici. On va me suicider.
C'est pas normal?
Oui, ce n'est pas normal. Dans un pays, il a fait une révolution, la première révolution de l'Arabe. Et le Kasserine, il a perdu beaucoup d'hommes, mais on n'a gagné aucune chose. On a perdu notre vie, notre espoir, notre imaginaire. On a perdu tout.
Alors Kasserine oubliée, pas du tout, répondent les autorités, et de parler des milliards de dinars investis, des infrastructures en cours de réalisation ou encore des efforts déployés pour les hôpitaux et la santé. Mais voilà, la révolution n'a que 8 ans, un âge bien jeune pour effacer un désespoir si ancien.
Tunisie, une révolution pour rien, c'est un article à retrouver en une sur franceculture.fr. Le temps de ce lundi 14 janvier, partagé entre nuages, éclaircies et pluie. Les températures sont comprises ce matin entre 3 et 8 degrés en général, jusqu'à 11 près de la Méditerranée.